Henry Boadicea. Dans une exposition de tableaux l'autre jour, je vis une toile qui avait été vendue 5 000 $. Le peintre était un jeune barbouilleur natif de l'Ouest, du nom de Kraft, qui avait une prédilection pour certaines sortes de nourritures intellectuelles et de théories alimentaires. Son plat favori était une foi inébranlable en l'infaillible et artistique ordonnance de la nature. Sa théorie préférée consistait en un rachis de corned beef surmonté d'un œuf poché. Il y avait une histoire derrière ce tableau coûteux. C'est pourquoi je rentrais chez moi et la laissais s'écouler par le bout de mon stylo. L'idée de Kraft, oh, mais ce n'est pas comme ça que commence l'histoire. Il y a 3 ans, Kraft, Bill Judkins, un poète et moi-même, prenions nos repas ensemble chez Cipher dans la 8e avenue. Je dis prenions. Quand nous avions de l'argent, Cipher nous arrachait, pour employer sa propre expression. Oh, il ne nous faisait pas officiellement crédit. Nous entrions et nous mangions, tantôt en payant, tantôt sans payer. Nous ne craignions pas le taciturne de Cipher, ni sa férocité intermittente. Au fond, cet homme sombre devait avoir une âme de prince, d'artiste ou d'imbécile. Il siégeait derrière un comptoir caisse, vermoulu, sur lequel s'entassait une pile d'additions impayées, dont certaines paraissaient si anciennes que celles du dessous devaient certainement avoir été payées jusque-là par un des hommes matelots de Christophe Colomb, coupable de grivellerie. Cipher, comme Napoléon III et la Perche, était capable à tout moment de voiler ses yeux d'une sorte de film qui rendait impénétrables les fenêtres de son esprit. Un jour que nous étions grandement excusés de ne pouvoir honorer l'addition, je le vis, quelques instants plus tard, secoué d'un rire silencieux avec son film sur les yeux. Nous versions des acomptes de temps en temps. Mais la grande chose chez Cipher, c'était Milly, la serveuse. Milly était un exemple frappant de la théorie kraftienne relative à l'infaillible et artistique ordonnance de la nature. Elle appartenait incontestablement corps et âme, et le reste, à la corporation des filles de salle, tout autant que Minerve à l'état-major des professeurs de l'escarmouche et Vénus à l'académie des séductions et beaux-arts. Statufiée en bronze et montée sur socle, elle aurait pu rivaliser avec la plus noble de ses sœurs héroïques en personnifiant la boostify enjolivant le monde. Elle faisait partie intégrante du restaurant Cipher. L'on s'attendait à voir sa silhouette colossale émerger du nuage flottant et bleuâtre qui s'exhalait du laboratoire à friture, tout comme le voyageur s'attend à voir surgir le gratte-ciel à travers les brumes de l'Hudson. Là, parmi les vapeurs de légumes, de petits salés, de pudding, parmi le fracas de la vaisselle, le cliquetis des couverts, le vacarme des commandes, les cris des affamés et tout l'horrible tumulte qui accompagne les repas de l'homme, environné d'un essaim de ces bestioles zélées et bourdonnantes qui sont la 11e plaie de l'Égypte, Milly s'avançait majestueusement, tout comme un grand paquebot qui fend les eaux au milieu d'une flottille de pirogues et des hurlements de sauvages. Notre déesse, la Boostify, était modelée en lignes si imposantes qu'on ne pouvait les contempler sans une sorte d'appréhension. Ses manches étaient toujours relevées au-dessus du coude. On sentait qu'il eût été capable de nous saisir tous les trois dans ses deux mains et de nous expulser par la fenêtre. Bon, elle était un peu plus jeune que nous, mais elle était si pleinement, si simplement, si magnifiquement femme qu'elle sembla, dès le premier jour, nous traiter comme ses enfants. C'est avec une royale magnificence que, sans regarder au prix ni à la quantité, elle répandait à profusion sur nous les victuailles de Cipher, comme si elles émanaient d'une inépuisable corde d'abondance. Sa voix résonnait comme le timbre d'une grande cloche d'argent. Son généreux sourire découvrait une dentition saine et entière. Elle avait l'air d'un lever de soleil doré sur le sommet d'une montagne. Je n'ai jamais pu la contempler sans songer à la vallée du Yosemite. Et cependant, je ne pouvais non plus imaginer qu'elle pût exister en dehors du restaurant Cifer. C'est là que la nature l'avait plantée, qu'elle avait pris racine et qu'elle avait robustement poussée. Elle semblait heureuse et ramassait tous les samedis son misérable salaire de quelques dollars avec la joie d'un enfant qui reçoit en rougissant un cadeau inattendu. Ce fut Kraft qui exprima le premier la crainte que chacun de nous couvrait en lui-même depuis quelque temps. La réflexion sortit naturellement d'une conflagration artistique qui avait éclaté au dessert. L'un de nous venait de comparer l'harmonie existante entre une symphonie de Haydn et une crème glacée aux pistaches à l'exquise concordance de Milly et du restaurant Cifer. « Bon, il y a, » dit alors Kraft, « une menace certaine qui pèse sur le destin de Milly, et, si elle se réalise, Milly est perdue pour Cifer et pour nous. »« Elle va engraisser ?» demanda Judkins avec effroi. « Elle va fréquenter l'école du soir et recevoir de l'éducation ?» questionnai-je anxieusement. « Mais voici, » dit Kraft en posant doctoralement son index sur une large et fraîche tache de vin. César avait son Brutus, la pomme a son puceron, la Niger, la sous-préfecture a son institut Rockefeller, la civilisation a son cinéma, l'art a son marchand de tableaux, la rose a ses... Mais parle, m'écriai-je. Si tu crois que Milly va mettre le corset, dis-le tout de suite. « Un jour, » déclara Kraft solennellement, « entrera chez Cifer pour y engloutir un plat de haricots à un prospecteur millionnaire de l'Alaska ou du Wisconsin, et il épousera Milly. »« Oh, jamais !» nous écriâmes-nous, Jenkins et moi, horrifiés. « Un prospecteur !» répéta Kraft d'une voix grave. « Oh, millionnaire !» soupirai-je avec désespoir. « Du Wisconsin !» gémit Jenkins. Nous dûmes reconnaître que la menace était des plus authentiques. Peu de choses paraissaient moins improbables. Milly, telle une vaste étendue de champs aurifères inviolés, devait nécessairement attirer le prospecteur. Et nous connaissions bien les mœurs des hommes des lois, moi, à qui la fortune a souri. C'est à New York qu'ils se précipitent tous, et là déposent leur sac d'or au pied de la première fille de salle qui leur a servi des haricots dans une haricoterie. Parbleu, l'allitération est déjà toute prête pour le reporter qui relatera le fait divers. Chez Cyprien, une superbe serveuse sert son seigneur sur son sein. Et pendant un moment, nous sentîmes que Milly était sur le point de nous échapper. C'était notre amour pour l'infaillible et artistique ordonnance de la nature qui nous inspirait. Nous ne pouvions pas l'abandonner à un maudit prospecteur, pourri d'argent et de barbarie. Nous frissonnâmes à la pensée que Milly, les manches baissées et l'air distingué, pourrait un jour offrir le thé dans le wigwam marmoréen d'un piocheur de minerais. Non, non, elle appartenait à Cifer, à la fumée du lard frit, au parfum de la soupe aux choux, au grand fracas wagnérien des timbales et des vermicelles. Nos appréhensions devaient avoir quelque chose de prophétique, car le soir même, les vastes territoires inviolés nous livrèrent à domicile, franco de port et d'emballage, le confiscateur prédestiné de Milly, le dévastateur présumé de l'ordonnance de la nature. Il venait de l'Alaska et non du Wisconsin, mais c'était qu'une maigre consolation. Nous étions sur le point d'attaquer notre ragoût vespéral lorsqu'il fit éruption en coup de vent, comme s'il fût précédé d'un attelage de six chiens, et s'installa sans façon à notre table. avec la familiarité traditionnelle de l'homme des bois, il se mit à nous bombarder de conversations et nous traita de but en blanc, compagnons d'aventure perdus dans les solitudes d'une mine de boustifaille. Nous l'embrassâmes en sa qualité de spécimen, et 3 minutes plus tard, nous étions devenus si bons amis que nous nous serions demandé mutuellement de mourir les uns pour les autres. Il était rugueux, barbu, craquelé. Il venait, nous dit-il, tout droit de là-haut, ayant débarqué une demi-heure plus tard à l'une des stations de North River. Il me semblait voir encore la neige de Chilcoot sur ses épaules. Puis il joncha la table de pépites, de lagopettes empaillées, de bimbeloteries indigènes, de peaux de phoque et autres impedimenta de l'homme de Klondike, et enfin se mit à bafouiller profusément de ses possessions et opulences. « Le de crédit de 20 millions, conclut-il. Et des 100 et des 1000 qui rappliquent chaque jour de mes concessions. Et maintenant, je veux du ragoût de veau et de la compote de pêche. Je suis pas descendu du train depuis si tôt et j'ai faim. Cette espèce d'alimentation que les nègres vous servent dans les pullman ne compte pas. Et vous, qu'est-ce que vous prenez ?» Et alors, Milly apparut, portant un millier de plats sur ses bras nus. Puissante et souriante et blanche et rose et imposante, Milly se leva dans la salle embrumée comme une aurore sur un lac de montagne. Et l'homme de Klondike laissa choir ses pépites et autres trésors comme si c'était que la copie à 5 sous la ligne, et sa mâchoire inférieure comme si le ressort était cassé. Et on pouvait voir ses yeux qui avalaient Milly à sextuple bouchée. Quant à Milly, c'est tout juste si elle ne s'apercevait pas déjà le diadème d'émeraude et rubis sur la tête, et la robe parisienne en dentelle, velours et pansoir par-dessus son tablier. Ainsi le puceron avait enfin attaqué la pomme. Le cinéma avait déployé ses tentacules industriels, les barbares, sur la chair de poule de la civilisation. Le monstre du Wisconsin, déguisé en terrassier de l'Alaska, était sur le point d'engloutir notre Milly et de bouleverser l'ordonnance de la nature. Oh, Kraft fut le premier à réagir. Il bondit sur l'homme du Klondike et lui asséna une claque vigoureuse et cordiale sur l'épaule. « Allons boire un coup d'abord !» s'écria-t-il. « Allez, venez boire, nous mangerons plus tard !» Jenkins saisit le bras du prospecteur et moi l'autre. Gaiement, bruyamment, irrésistiblement, dans le style authentique des bons vivants, nous l'entraînâmes hors du restaurant jusque dans un café suffisamment dépourvu de proximité, tout en fourrant dans ses poches ses ciseaux oiseaux embaumés et ses pépis indigestes. Une fois assis, il commença par émettre une protestation énergique, mais sans rancune. « Mais c'est la femme qu'il me faut » affirma-t-il. Puisera dans ma marmite jusqu'à la fin de ses jours. Jamais une femme aussi belle. Oh, je retourne lui demander sa main tout de suite. Pense pas qu'elle ait envie de continuer à servir des beefsteaks quand elle aura vu le petit en jaune que j'ai à mon crédit. Mais prenez d'abord un autre whisky, insinua Kraft avec un sourire satanique. Je vous croyais meilleur buveur que ça, vous les gars du Nord. Kraft jeta ses derniers sous sur le comptoir et Sir John Kitts et moi, un regard si suppliant que nous raclâmes nos poches jusqu'à l'ultime centime afin de prolonger l'irrigation de notre invité. Puis, quand nos munitions furent épuisées et que l'homme du Klondike, qui n'était pas encore suffisamment saoul, se remit à bégayer le nom de Milly, Kraft se pencha vers son oreille et murmura quelques courtoises allusions à la pingrerie de certains millionnaires, si insolente et si venimeuse, que le mineur jeta violemment sur le comptoir des poignées successives de pièces d'or et d'argent, en commandant d'une voix tonitruante une quantité de consommation suffisante pour noyer cette perfide insinuation. Ainsi l'œuvre s'accomplit. Avec ses propres munitions, nous chassâmes l'ennemi du champ de bataille. Puis nous le voiturâmes jusqu'à un petit hôtel éloigné, le mîmes au lit, avec ses pépites et ses pots de phoque. « Oh, il ne retrouvera jamais s'y faire, » dit Kraft. Il offrira sa main à la première demoiselle en tablier blanc qu'il apercevra demain dans la première crèmerie où il entrera. L'ordonnance de la nature est sauvée. Et tous les trois, nous retournâmes chez Cifère, et comme il n'y avait plus guère que nous comme clients, nous nous prîmes les mains et dansâmes une ronde autour de Milly. Ceci se passait, je dis, il y a 3 ans. Quelque temps plus tard, chacun de nous reçut la petite ration intermittente que le grand distributeur de chance accorde parcimonieusement à ceux qui ne fréquentent point le temple de Mercure, et fut ainsi en mesure de s'acheter une nourriture plus coûteuse et moins élémentaire que celle de Cifère. Nos routes divergèrent, je ne vis plus Jenkins que rarement, et je perdis Kraft complètement de vue. Mais, ainsi que je l'ai relaté in capite, j'aperçus l'autre jour un tableau qui avait été vendu 5 000 $. Il était intitulé « Boadicée » et le personnage couvrait légèrement, généreusement, le fond rustique sur lequel il était représenté. Mais parmi tous ceux qui admiraient la toile, j'étais probablement le seul qui pût s'attendre à voir Boadicée surgir de son cadre pour m'apporter des œufs pochés aux épinards. Je me précipite chez Kraft. Il avait toujours le même regard satanique, les mêmes cheveux embroussaillés, mais son complet sortait de chez un tailleur. « Ah, mais je ne savais pas, lui dis-je. Oui, nous avons acheté une villa dans le Bronx avec cet argent, dit-il. Allez, viens nous voir, n'importe quel soir, à 7 heures. Mais alors, dis-je, lorsque tu nous entraînas au cabaret, au combat, contre l'homme du vice, enfin du clan de Nickel. Ce n'était pas exclusivement pour l'amour et l'infaillible artistique ordonnance de la nature. Non, pas exclusivement, fit-il avec son rictus diabolique.